Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sebulia, bonjour. Au Burkina Faso, 3 personnes, 2 femmes et un bébé ont été tuées, une autre blessée ce lundi par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur charrette qui transportait des femmes dans le nord du pays. Confrontées à des attaques djihadistes meurtrières, a appris l'AFP de sources locales. Le drame s'est produit sur l'axe Arbinda Gorgadji, a précisé une des sources. Il s'agissait de personnes déplacées fuyant la menace djihadiste, selon une autre personne. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, reviendra sur le sort des personnes fuyant la menace djihadiste et leurs appels aux autorités en seconde partie de cette édition. Au Sénégal, 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement pour renforcer la lutte contre le terrorisme font peser un risque sur la protection des libertés fondamentales dans ce pays, a averti hier l'ONG Human Rights Watch. Elle qualifie la nouvelle législation de vague dans un communiqué et pointe le risque qu'elle soit utilisée pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion, même si l'ONG estime légitime les inquiétudes au sujet de l'influence croissante des groupes armés islamistes au Sénégal. Au Mali, l'ancien député Karim Keïta, fils aîné du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, fait depuis lundi l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré du Sphinx en 2016. Interpol a émis une notice rouge à la demande d'un juge d'instruction de Bamako, selon une source proche de l'enquête qui a requis l'anonymat. Karim Keïta, qui a toujours fermement démonté toute implication dans la disparition du journaliste, a trouvé refuge à Abidjan après le coup d'état militaire qui a renversé son père en août 2020. Des hommes armés ont envahi un pensionnat de l'État nigérian de Kaduna et kidnappé 140 lycéens, vraisemblablement pour les échanger contre une rançon. Il s'agit de la dernière en date d'une série d'attaques de ce genre depuis plusieurs mois dans le nord-ouest du Nigeria. L'Éthiopie a commencé la seconde phase de remplissage d'un barrage controversé sur le Nil, a dénoncé ce lundi l'Égypte, une initiative qui risque de faire monter la tension à l'approche d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi. Le grand barrage construit par l'Éthiopie en amont du Nil est de longue date l'objet de divergences profondes avec l'Égypte et le Soudan qui craignent pour leurs ressources en eau. Plus de 36 000 contaminations quotidiennes ont été recensées ces derniers jours. Ces 7 derniers jours en Afrique, un nombre record sur ce continent depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'AFP à partir du bilan officiel arrêté à dimanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la fin prochaine du port du masque en Angleterre, malgré une envolée des cas de COVID-19 attribués au variant Delta, qui inquiète le reste du monde et notamment l'Afrique, où la pandémie est donc en plein rebond, avec un nombre record de contaminations. Dernière minute, le contact a été perdu avec un avion transportant 28 passagers dans l'est de la Russie, selon des agences d'information russes. Un drone a été intercepté et abattu lundi près de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, après l'agence Reuters de 2 sources sécuritaires irakiennes qui ont précisé que le drone n'avait pas atteint le complexe diplomatique. Washington impute à des milices soutenues par l'Iran des attaques régulières contre les installations et le personnel américain en Irak. Un millier de soldats afghans se sont mis à l'abri au Tadjikistan après des combats dans le nord-est de l'Afghanistan contre les talibans, lesquels continuent de gagner du terrain. Un corps a été retrouvé lundi dans les décombres de l'immeuble effondré en Floride, portant le bilan à 28 morts et 117 disparus, ont annoncé les autorités 11 jours après l'effondrement. Et les recherches se poursuivent même si les chances de retrouver les survivants sont proches de zéro, selon un responsable. suite de nos informations, le chef de la junte militaire et président autoproclamé du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés hier en France, où ils ont discuté des questions de sécurité du G5 Sahel. Précision de Nani Talani.
Les deux dirigeants ont évoqué, entre autres, la préparation du prochain sommet du G5 Sahel que le Tchad préside actuellement. La date des assises n'est pas encore précisée, mais des sources tchadiennes et françaises indiquent qu'elle pourrait se tenir entre jeudi et vendredi. Ce sommet revêt une importance capitale. La France pourrait préciser le dispositif de son engagement futur après l'annonce du retrait progressif de la force Barkhane de la région où l'armée tchadienne est l'un des principaux piliers de la lutte contre les groupes djihadistes. En parlant du voyage du chef de la junte qui a quitté N'Djamena dimanche, la présidence tchadienne a évoqué une visite d'amitié et de travail. Cette rencontre était la deuxième entre les deux hommes, la première à l'Elysée. Après le Niger et le Nigeria, la France est le troisième pays que visite Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, et général 4 étoiles, qui dirige le conseil militaire de transition depuis l'annonce de la mort de son père, Idriss Déby Itno, le 20 avril. Lors des obsèques du défunt maréchal tchadien, M. Macron était le seul chef d'État occidental venu à N'Djamena lui rendre un dernier hommage et rencontrer son fils et successeur.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est targué lundi de pouvoir recruter sans difficulté 1 million de nouveaux combattants tout en disant promouvoir pour l'heure une période de silence des armes dans la région du Tigré. Le point avec John Linden.
Les déclarations du premier ministre éthiopien interviennent une semaine après la chute de la capitale régionale Mekele aux mains des rebelles des forces de défense du Tigré et la proclamation d'un cessez-le-feu unilatéral par le gouvernement fédéral. Les forces de défense du Tigré ont présenté la prise de Mekele et d'une grande partie de la région du Tigré comme une victoire majeure, alors que le premier ministre et d'autres responsables éthiopiens assurent que l'armée a opérer un retrait tactique pour se concentrer sur d'autres menaces. En une, deux ou trois semaines, 100 000 forces spéciales entraînées, armées et organisées peuvent être mobilisées, a déclaré le Premier ministre aux députés. Si cette force spéciale ne suffit pas, si une milice est nécessaire, en un ou deux mois, un demi-million de miliciens peuvent être organisés, 1 million de jeunes peuvent être mobilisés et formés, a-t-il ajouté. 3 ans après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, l'Éthiopie fait face à une double crise de la dette sur fond de chômage et de pauvreté.
C'est toujours le doute sur une éventuelle arrestation de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage. Il avait jusqu'à dimanche pour se rendre, mais affirme n'avoir aucune intention d'aller derrière les barreaux. Le point avec Abdourahman Dia.
Le ministre de la police, Bekki Sele, a dit à la presse espérer obtenir des clarifications sur l'ordre reçu par les autorités d'arrêter l'ancien chef d'État à compter de mercredi minuit s'il ne s'était pas rendu de lui-même le 4 juillet. « Pas besoin que j'aille en prison », avait déclaré dimanche l'ancien chef d'État en riant depuis son fief de Kandla dans le KwaZulu-Natal. Son espoir de ne pas séjourner en prison se base sur la décision de la Cour constitutionnelle d'examiner son recours en annulation de sa condamnation. L'audience est prévue le 12 juillet. Mais en attendant, un tribunal dans la province du KwaZulu-Natal où il réside doit par ailleurs se prononcer aujourd'hui mardi sur son éventuelle arrestation. Zuma ayant déposé un recours demandant la suspension de l'ultimatum. L'ancien chef d'État a été condamné le 29 juin à 15 mois de prison pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans des enquêtes sur corruption pendant ses 9 années au pouvoir.
La Minute Éco, John Linden.
Les 4500 producteurs de sorgho du Nord Cameroun peuvent se réjouir de leur collaboration avec Guinness Cameroun. Selon le magazine Jeune Afrique, depuis 5 ans, Guinness Cameroun s'approvisionne intégralement en sorgho auprès de leur coopérative pour fabriquer la bière de marque Rap Premium. Depuis 2018, Guinness Cameroun, souligne l'hebdomadaire panafricain, a dépensé plus de 13 millions d'euros pour s'approvisionner en céréales. Au Sénégal, 40% des patrons d'entreprises opérant dans le secteur de l'industrie rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement des matières premières et 40% dans celui des recouvrements des créances. C'est le résultat d'une enquête d'opinion réalisée par la direction de la prévision et des études économiques. La concurrence déloyale et l'insuffisance de la demande sont aussi évoquées. Les membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et leurs 10 alliés ne se sont pas finalement réunis lundi, contrairement à ce qui était prévu. Un différend a émergé entre les Émirats arabes unis et le reste de l'Alliance. Les membres devaient plancher sur la nécessité d'augmenter chaque mois la production de pétrole de 400 000 barils par jour entre août et décembre, soit un total de 2 millions de barils quotidiens sur le marché d'ici la fin de l'année.
Merci John, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. NBA pour commencer. Sortie des playoffs à rebondissement, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s'affrontent à partir de cette nuit en finale. Une affiche inédite, inattendue et équilibrée qui marque un renouvellement de la Ligue. Jamais couronnée en 53 ans d'existence de la franchise, Phoenix est de retour en finale pour la première fois depuis 1993. Tandis que les Bucks, titrés en 1971, n'avaient plus fréquenté ce niveau depuis 1974. Football, la première demi-finale de l'Euro se joue ce soir entre l'Italie de Roberto Mancini et l'Espagne de Luis Enrique. À Londres, l'Italie a perdu le précieux Leonardo Spinazzola, blessé. Emerson, son remplaçant naturel sur le flanc gauche, essaiera d'en profiter pour briller enfin à Londres après avoir peu joué cette saison avec Chelsea. Pour Luis Enrique, la seule interrogation concerne l'état de santé de Pablo Sarabia, buteur contre la Slovaquie et la Croatie, mais blessé à l'adducteur droit. L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait céder sa place à Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal. Sur le continent, les Léopards de moins de 23 ans de la République démocratique du Congo quittent Kinshasa cette semaine, destination l'Éthiopie où ils vont participer au tournoi international du CECAFA, le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, prévu du 7 juillet au 8 août prochain à Bahir-Dar. C'est le premier regroupement du nouveau staff technique dirigé par Jean-Claude Loboko, nommé il y a 3 semaines à la tête de cette sélection. De Kinshasa, le reportage de Patrick Lupica.
L'extraordinaire attire, mais c'est bien la simplicité qui retient chez le part de la RDC. Le sélectionneur adjoint Dibou Kassa veut panacher et instaurer de la concurrence malgré les absences des plusieurs joueurs évoluant en Europe.
Il y a Gaël Kakoudji du FC Seren qui était déjà là lors de la dernière campagne avec les U23, mais qui était encore très jeune. C'est normal qu'on le laisse faire la prépa avec son club. Il y a William Balikwisha, pareil pour Nelson Balongo. On a eu aussi le cas à Beverly Makangi, là, et Michel Galina, toujours la même raison.
Des Léopards qui jouent bien et qui doivent apprendre à se faire moins peur en appliquant la philosophie des jeux du nouveau staff technique, Joël Beya, attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert.
Une méthode assez bonne, très technique et très tactique, beaucoup de discipline défensive aussi.
Non qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique de Nations, des Congolais sont revanchards et veulent laisser des belles impressions en Éthiopie, Joël Beya.
La différence, elle se fera au niveau de la motivation et de l'envie. Dans ce tournoi où nous sommes novices.
Une génération talentueuse, comment ne pas y voir le signe d'un destin à part, Dibou Kassa, sélectionneur adjoint.
Pour le moment, c'est sur ce groupe que nous allons nous concentrer pour commencer à faire un tri et voir parmi eux qui sont les joueurs qui peuvent postuler à la prochaine sélection A.
Exigeant, les supporters attendent des bons résultats, mais en football, il est délicat de comparer les époques.
Depuis Kinshasa, Patrick Lupica, VOA Afrique.
Merci Patrick.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seglia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Assiégés par des djihadistes, les habitants de Modjouari, dans l'est du Burkina Faso, ont quitté les lieux après avoir appelé au secours depuis des semaines sans succès. certains auraient même traversé la frontière pour se réfugier au Bénin, les villages de la commune de Madjouari sont désormais sous le strict contrôle des militants armés. Ceux qui ont pu rallier la capitale Ouagadougou ont rencontré la presse ce lundi pour une nouvelle fois appeler les autorités à l'action dans leur région. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Madjouari est une commune fantôme située à une centaine de kilomètres de Fadangourma, la grande ville de l'est du pays. Madjouari est assiégée par des hommes armés depuis des semaines. Des terroristes y règnent en maître. À Ouagadougou, ceux qui ont pu fuir Madjouari ont de nouveau lancé un appel au secours.
Depuis le 29 juin, à côté, un ultimatum de 7 jours est donné au chef-lieu de la commune, donc de quitter les lieux.
Dani Nassirou, porte-parole des ressortissants de Madjouari.
Si dans 7 jours rien n'est fait, Madjouari ne sera qu'une histoire et n'existera plus. La base militaire qui y est depuis 2 ans pliera bagage pour certainement s'installer dans une autre zone plus burkinabée que la nôtre. L'État n'existe plus. Les forces de défense et de sécurité qui y sont n'attendent que la fin de l'évacuation des habitants pour partir eux aussi par hélico. Car dans cette île forestière, la seule route qui nous lie au reste du monde est en cours d'être coupée et personne ne veut encore l'emprunter. Les terroristes menacent de faire sauter le pont de Singou pour couper définitivement la commune du Burkina Faso. Nous voulons continuer d'être burkinabés. Nous ne voulons pas être déplacés dans notre propre pays.
Cette occupation dure depuis plusieurs semaines. Une réaction des forces gouvernementales se fait toujours attendre. Les populations ont dû fuir par milliers, selon le maire de Madjouari à VO Afrique. Adjima Tiobiano.
Les populations de 14 000 habitants, il ne restait que 1000 habitants qui restent. Tous les autres ont quitté. Si à mode de culture, si les 8 villages ont quitté, il ne reste que Madjouari et Tambarga seulement qui restent dans la commune.
Pour le maire, toutes les alertes nécessaires ont été données et les autorités sont informées de la situation qui prévaut.
Depuis les premières heures là, on a eu à informer tout le monde. L'information a passé partout. En province, à la région, au niveau national, on a pleuré partout. On a informé qui de droit, on n'a pas eu de réponse.
Les analystes pensent qu'il faut une action forte dans la zone. Mamadou Savadogo est expert en sécurité.
Je pense que les autorités doivent prendre cette menace au sérieux, étant donné que la situation est déjà assez dégradée. En attendant, après la stabilisation, de renforcer la présence de l'administration et de l'État et des forces de défense et de sécurité. Parce que c'est une zone qui a un très faible maillage sécuritaire.
En attendant, les populations continuent de fuir pour rejoindre d'autres localités et le Bénin voisin. Nous demandons à toutes les bonnes volontés qui peuvent venir en aide à ces milliers de personnes sans vivre, sans toit et sans aucune assistance parce que la zone est inaccessible, de bien vouloir faire parler leur cœur. Nos frères ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. Ont lancé comme SOS les ressortissants du Madjouari ce lundi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
En Guinée, plusieurs innovations sont portées par des jeunes pour booster le système éducatif. Il s'agit pour certains de proposer des cours en ligne grâce aux applications et pour d'autres de renforcer la connaissance des élèves à travers des cours de révision en présentiel. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Dans quelques jours, plusieurs dizaines de volontaires seront déployés dans une partie de la Moyenne Guinée au compte de l'initiative 224 Objectif Bac. L'année dernière, seulement 609 élèves ont obtenu leur bac sur plus de 2000 candidats présentés par la région de l'Abbé. Un faible taux de réussite qui ne peut laisser indifférent Mohamed Ali Kondé, coordinateur du collectif.
Notre méthode consiste à inverser le préétabli, c'est-à-dire qu'à la base, sur les 9 mois, les enfants ils étudient la théorie après la pratique. Et donc nous partons de la pratique à la théorie. Du coup, nous concevons des sujets sur les différents chapitres.
Cette année, 83 volontaires seront mobilisés pour apporter une assistance pédagogique aux candidats au bac et au BEPC. Tout comme Mohamed Ali, le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée fait des élèves guinéens la cible de son activité. L'ONG porte un projet d'alphabétisation numérique destiné aux enfants. Djibril Wagé, directeur exécutif du club.
nous passerons pour conseiller les parents à partir du même moment de savoir, oui, quel type d'application il faut télécharger pour l'enfant, lorsque votre enfant se situe dans quel intervalle d'âge, et également attirer l'attention des établissements d'enseignement scolaire qui possèdent des centres informatiques pour leur dire que nous avons ici l'expertise qui permet de faire fonctionner Scratch. Et c'est une solution qui fonctionne sans Internet. Nous faisons du conseil, nous faisons du déplacement sur site, nous faisons l'apprentissage et la formation pour les enfants et également pour la formation des formateurs.
Considérant les responsabilités de tous dans l'éducation des enfants guinéens, l'entreprise Magwe Technologies a lancé une plateforme numérique qui met à contribution les parents, les enseignants et les élèves. Pour Mohamed Lamine Touré, directeur général adjoint de l'entreprise, il s'agit de proposer un environnement numérique adapté aux besoins des établissements scolaires et universitaires.
Nous avons développé un pointeur qui s'appelle Nabe, un dispositif qui est déjà installé à l'école. Un élève, à partir de son téléphone, à partir de son badge, dès qu'il pénètre la cour de l'école, automatiquement le système l'enregistre, l'élève est présent. Et à part cela, nous avons développé un algorithme à l'intérieur de Magwe Education qui permet de faire la pédagogie de différenciation, de pouvoir segmenter la classe pour un enseignant pour dire voici les biens dans chaque chapitre, tel chapitre, tel chapitre.
Le gouvernement guinéen promet de réaliser l'informatisation et la digitalisation de la gestion administrative et pédagogique du département en charge de l'éducation. Selon Mamadi Sidiki Camara, chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce projet devra permettre une bonne gestion du système éducatif guinéen.
Nous avons dû, avec Covid, essayer pour une première fois de faire parvenir nos cours à nos enfants qui sont restés à la maison durant au moins 2 mois et un peu plus. Nous avons, à travers cette première expérience, découvert l'importance de cette digitalisation et la possibilité d'assurer cette continuité éducative à travers le numérique.
Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la Guinée a enregistré en 2020 moins de 50% d'admis au baccalauréat unique. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, d'importants fonds vont être mobilisés pour lutter au cours des 2 prochaines années contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À cet effet, le gouvernement a reçu la semaine dernière un financement d'environ 164 milliards de francs CFA du Fonds mondial contre ces 3 maladies afin de renforcer leur prise en charge gratuite. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
D'après les autorités sanitaires, le sida, la tuberculose et le paludisme représentent les plus fortes incidences de mortalité et de morbidité. À Yaoundé, l'hôpital du jour, logé dans l'enceinte de l'hôpital central, est l'une des structures publiques de prise en charge des patients sous traitement antirétroviraux. Ici, le dépistage, les consultations médicales et prénatales, les contrôles de charge virale et les médicaments de prévention des infections opportunistes sont gratuits depuis janvier 2020. Comme en témoigne sous anonymat le personnel de l'hôpital du jour.
Les femmes enceintes, quand elles arrivent, on leur fait des examens normalement. On fait ce qu'on appelle le counseling. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital aujourd'hui, il est pris en charge normalement. Il se rend compte qu'il est un patient au même titre que les autres.
Selon l'agence Spectrum, plus de 496 000 personnes vivent avec le VIH en 2021 au Cameroun, parmi lesquelles 7% d'enfants de moins de 15 ans et 66% de femmes âgées de 15 à 64 ans. À l'horizon 2023, plus de 390 000 personnes infectées par le VIH sont à mettre sous traitement antirétroviraux. Quant à la tuberculose, elle représente 6% de décès par an. Plus de 22 000 cas ont été recensés en 2020, période au cours de laquelle l'État a contribué à hauteur de 900 millions de francs CFA pour offrir gratuitement des antibiotiques aux patients. Le Cameroun veut éradiquer cette maladie en 2030. Dr Vincent Mbassa, secrétaire permanent de lutte contre la tuberculose.
Nous allons évoluer vers une prise en charge gratuite parce que ces examens seront supportés par soit le partenaire, soit l'État. Donc on est en train d'évoluer vers la gratuité du dépistage de la tuberculose sur le territoire national.
Le taux de prévalence du paludisme est en baisse. 20% en 2020, il y a une dizaine d'années, il était de l'ordre de 30%. La mortalité infantile a aussi diminué, presque de moitié. 4100 décès ont été enregistrés l'an dernier, des suites de paludisme dans les hôpitaux au lieu de 4500 morts en 2020. Toutefois, le taux de couverture des femmes enceintes reste en deçà des attentes.
Avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, une réadaptation rapide des dispositifs de lutte contre ces trois maladies s'est avérée indispensable.
Joseph Dion Gouté est le premier ministre du Cameroun.
Le gouvernement est engagé depuis plusieurs décennies dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes aujourd'hui rassurés qu'à la faveur du nouveau mécanisme de financement mis en place, d'action significative d'environ 66% de l'enveloppe dédiée au Cameroun. Les interventions en matière de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vont être renforcées sur le terrain.
Yaoundé, Emmanuel Jungtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nombreuses entreprises à travers le monde, totalement ou partiellement paralysées par une cyberattaque géante liée au logiciel de la société américaine Kaseya, l'attaque est revendiquée par un groupe de hackers qui réclament $10 millions. L'FBI, qui a reconnu l'ampleur de l'attaque dès le week-end, a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'entreprise visée sert en effet plus de 40 000 clients, dont une majorité de petites et moyennes entreprises dans une vingtaine de pays. Pour davantage d'explications, Abdourahman Dia a joint à Paris Cherna Ahmed Diouf, responsable adjoint de la sécurité des systèmes d'information à Randstad.
Alors, en fait, il faut savoir que les attaquants sont opportunistes et ont chacun un but bien précis, que ce soit l'argent, l'idéologie religieuse, etc. Donc, de la même manière que nous travaillons à sécuriser nos actifs par le biais de la cryptographie, autant pour moi, les attaquants font de même pour sophistiquer leurs attaques. Donc, pour en venir à votre question, primo, le ransomware est une attaque particulièrement lucrative, la motivation d'ailleurs de la plupart des cyberattaquants. À ce titre, on a un rapport de l'éditeur CrowdStrike qui nous dit que les dommages qui ont été causés en 2015 correspondent à peu près à $345 millions. Et d'ici la fin de cette année, on devrait s'établir à $20 milliards, ce qui est quand même assez conséquent.
Alors, mais justement, si les compagnies, les grandes compagnies comme Colonial Pipeline admettent avoir payé de l'argent, pour le cas de Colonial Pipeline, on parle de $4 millions, est-ce que cela n'encourage pas justement ce type d'attaque?
D'ailleurs, l'un des premiers réflexes que l'on promulgue à toute entreprise ou toute entité ayant subi une cyberattaque, c'est de ne jamais payer la rançon. Parce que lorsqu'on paye la rançon, on n'est pas sûr de recouvrer l'intégralité de son système d'information parce que les attaquants détruisent la clé qui a servi à chiffrer le système après l'avoir fait. Donc il n'y a aucune garantie et effectivement le fait de le faire encourage les autres entreprises à faire de même parce qu'ils ont l'impression que c'est ce qui les sort de cette situation alors que non.
Alors, avec cette attaque qui est en cours, celle qui vise Kaseya, on voit que plusieurs petites compagnies sont touchées par ricochet. Comment ces petites compagnies qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent-elles se prémunir, se protéger?
Il existe des règles simples à mettre en place et dont l'apport est significatif. Je pense notamment à la sensibilisation des employés, qui est d'ailleurs une des défenses les plus significatives contre le ransomware, car très souvent, en fait, cette attaque passe par l'ouverture d'un mail malicieux. Il y a également d'autres règles d'hygiène, telles que le fait de tenir à jour son parc informatique, d'interdire l'installation de logiciels non approuvés par la sécurité de l'information, entre autres.
Et pour ce qui est de l'Afrique, les compagnies sont-elles plus menacées que d'autres?
J'ai un petit indicateur là-dessus parce qu'au moment où je vous parle, je consulte en parallèle la map des tentatives d'attaque cyber dans le monde qui sont détectées. Il y a 4 pays africains qui sont dans le top 40 des pays visés. En l'occurrence, l'Algérie, il y a le Maroc, l'Égypte, je vois également l'Afrique du Sud. Pour dire que l'Afrique n'est pas exclue du prisme des cyberattaquants. En revanche, en fait, à l'échelle d'un continent, il faudra pousser un peu plus loin que les règles d'hygiène qu'on a vues avec les entreprises, des petites entreprises comme on l'a énoncé un peu plus tôt. Il faudra adopter une défense en profondeur avec en première ligne de défense les systèmes étatiques.
Cherna Armediouf, spécialiste de la sécurité des systèmes d'information, joint à Paris. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.